Extrait du roman de Elena Ferrante, La vie mensongère des adultes, en folio. Je surveillais ma mère pendant des jours. Quand le téléphone sonnait, qu'elle courait répondre avec trop d'empressement, et que sa voix, forte au départ, devenait vite un murmure, je soupçonnais que son interlocuteur était Mariano. Si elle passait trop de temps à soigner son apparence, écartait une robe, puis une autre et une autre encore, voire en venait à m'appeler pour savoir laquelle lui allait le mieux, j'étais certaine qu'elle devait se rendre à un tête-à-tête secret avec son amant. C'était là une des expressions que j'avais apprises en feuilletant parfois les épreuves de ses romans à l'eau de rose. Je découvris, à cette occasion, que j'étais capable de jalousie maladive. Jusqu'à ce jour, j'avais été persuadée que ma mère m'appartenait et que mon droit de l'avoir toujours à disposition était indiscutable. Dans mon petit théâtre intérieur, mon père était à moi et, légitimement, à elle aussi. Ils dormaient ensemble, échangeaient des baisers, et ils m'avaient conçu selon des modalités qui m'avaient été expliquées quand je devais avoir 6 ans à peine. Leur relation était pour moi un état de fait, et par conséquent, consciemment, elle ne m'avait jamais troublée. Mais, en dehors de cette relation, je considérais étrangement ma mère comme un être intouchable, que je ne pouvais partager avec personne. Elle n'appartenait qu'à moi. Son corps était à moi, son parfum était à moi, même ses pensées étaient à moi, et ces dernières ne pouvaient tourner qu'autour de moi. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'en avais toujours été convaincue. Or, maintenant, il était souvent devenu plausible, et là j'utilisais à nouveau les formules apprises dans les romans sur lesquels elle travaillait, que ma mère se donne à un autre en dehors des pactes familiaux, en cachette. Cet autre se sentait autorisé à serrer sa cheville entre les siennes sous la table. Et qui sait où il se trouvait, quand il fourrait sa salive dans la bouche de ma mère, suçait les tétons que j'avais tétés, et, comme disait ma tante Vittoria, avec son accent que je n'avais pas, mais que plus que jamais par désespoir j'aurais voulu avoir, quand il empoignait l'une de ses fesses, puis l'autre. Lorsque ma mère entrait, à bout de souffle, harcelée par 1000 tâches professionnelles et domestiques, je voyais ses yeux briller. Je devinais sous ses vêtements la trace des mains de Mariano, et je sentais sur tout son corps, alors qu'elle ne fumait pas, l'odeur de tabac qu'avaient les doigts de cet homme, jauni par la nicotine. Le seul fait de l'effleurer me dégoûta bientôt. Et pourtant, je ne supportais pas d'avoir perdu le plaisir de m'asseoir sur ses genoux, de jouer avec les lobes de ses oreilles pour l'agacer, l'entendre dire « Mais arrête, je vais avoir les oreilles toutes violettes !» et rire avec elle. « Pourquoi fait-elle ça ?» Je me creusais la cervelle. Je ne voyais pas une seule bonne raison qui justifie sa trahison. Et je me demandais ce que je pouvais faire pour la ramener au temps d'avant, avant ce contact sous la table de la salle à manger, afin de la voir à nouveau telle qu'elle était lorsque je ne réalisais même pas combien je tenais à elle et qu'il me semblait évident qu'elle était là uniquement pour répondre à mes besoins et qu'elle le serait toujours.